Il est 7h, bonjour et bienvenue en ce vendredi 30 janvier. C'est le matin, bon réveil, bon début de matinée, bon café, bon tout. Bon, pas café, bon thé.
Radio Chablais, suivez-nous. On vous suit.
On va essayer de survivre à ce journal de 7h avec Léa Journeau. Bonjour.
Bonjour, oui, je viens d'être prise d'une grosse quinte de tout. J'espère que ça ne va pas se reproduire pendant le journal.
Au pire, tu me files l'affiche et je continue.
Non, mais on va y arriver. On va y arriver. Bon, bref. Bonjour, Johan. Bonjour à tous. Le canton de Vaud améliore la prise en charge des demandeurs d'asile mineurs non accompagnés, souvent appelés MNA. À la suite d'une multiplication par 9 du nombre de jeunes demandeurs d'asile entre 2021 et 2023, le canton a décidé de structurer l'accompagnement de ces adolescents dont le parcours est souvent très difficile. Sur la base d'une analyse externe indépendante, le Conseil d'État a adopté en juin 2024 une feuille de route cantonale en collaboration avec l'établissement vaudois d'accueil des migrants visant notamment à construire un projet de vie avec ces jeunes et les mener vers l'autonomie. Steven Fricot, responsable du domaine MNA de l'EVAM, revient sur la hausse du nombre de jeunes demandeurs d'asile.
On a un phénomène qu'on observe tous dans l'actualité au quotidien, on a une augmentation des conflits. On a eu pendant beaucoup d'années, ces dernières années en tout cas, beaucoup de jeunes afghans qui arrivaient en Europe et en Suisse pour demander l'asile. Ce phénomène existe toujours, mais de plus en plus, on a des jeunes, alors c'est pas nouveau, mais issus de pays comme l'Éthiopie et la Somalie, qui sont aussi des zones en conflit. Beaucoup d'entre eux soit quittent des pays en conflit pour aller chercher une vie meilleure ailleurs, soit pour des raisons économiques. C'est aussi le cas de certains d'entre eux qui quittent des pays pas en conflit, mais pour des questions de vulnérabilité, de pauvreté, tentent leur chance ailleurs. Et ce ailleurs, c'est aussi la Suisse à un moment donné.
Des propos recueillis par Valérie Favre. À noter que le canton de Vaud est passé de 56 demandeurs d'asile mineurs non accompagnés en 2021 à 452 en 2024. Depuis, le nombre de MNA est redescendu à 260.
Vevey a mis à l'enquête publique les plans d'affectation nord-ouest et sud de la ville.
Ces deux permettent de définir des règles claires et précises concernant les constructions sur le territoire communal. Ils répondent également aux enjeux actuels et futurs sur les questions de préservation du paysage et du patrimoine, de lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi de biodiversité et de mobilité. Antoine Dormont, municipal du service de l'urbanisme et de la mobilité à Vevey, précise la démarche.
Alors, on pourrait apparenter ça à du Tetris urbain, puisque l'objectif, c'est vraiment de conserver au maximum le bâti existant, de faire avec ce qu'on a, avec les qualités des quartiers qu'on a à Vevey. Et du coup, c'est vraiment plutôt de la couture, d'un jeu de surélévation, de rénovation. Mais on va en tout cas encourager le plus possible la qualité plutôt que la quantité.
Et la population peut découvrir ces plans d'affectation via deux expositions présentant les principales thématiques à la place Robin et au Jardin Doré. Notez finalement que la mise à l'enquête court jusqu'au 8 février, un sujet signé par Martine Wistiner.
Et si le deuil ne concernait pas uniquement la mort ?
C'est le postulat des cafés deuil organisés à Trois-Torrents par Benjamin Lana et Bérénice Bonjean. Depuis fin 2025, ces rencontres mensuelles accueillent toute personne traversant une perte, déménagement, rupture, accident, perte d'un idéal ou d'une capacité physique. Hier soir, la première rencontre de 2026 s'est tenue à la Boulantine à Trois-Torrents, un espace où chacun peut venir déposer son vécu sans jugement pour reconnaître que le deuil fait partie intégrante de nos parcours de vie. Les explications de Benjamin Lana, cofondateur des cafés deuil.
Il y a vraiment un cadre qui est posé, c'est vraiment l'importance de ces cafés deuil. Le point numéro un, c'est de créer un cadre en fait qui est sécurisant, bienveillant, un espace où les gens se sentent confortables pour s'exprimer. C'est vrai que sécurisant, j'aime pas trop utiliser ce terme parce qu'en fait, la sécurité veut dire des choses différentes pour chaque personne. Donc on peut pas vraiment être sûr d'avoir créé un lieu sécurisant, mais on essaye au mieux qu'on peut. Le cadre est créé par un peu un rituel d'ouverture avec une méditation ou un peu de respiration pour que tout le monde soit bien dans le moment ensemble. Et ensuite, il y a une prise de parole qui se fait intuitivement par chaque personne. Et on met vraiment un accent important sur le silence aussi, de laisser ce silence régner pour que les choses puissent apparaître naturellement, sans guidance en fait. On est vraiment là pour juste accueillir ce qui se passe.
Des propos recueillis par Ludovic Turin. Notez que les prochaines rencontres des Cafés d'Oeil auront lieu les 19 février et 19 mars prochains à la Ballantine.
Le versement des indemnités de chômage s'accélère.
C'est ce qu'indique le secrétariat d'État à l'économie, le SECO. Le problème informatique majeur qui a touché les caisses de chômage de l'ensemble du pays est en train d'être résolu. Mais le paiement des indemnités pourrait arriver avec quelques jours de retard, regrette le SECO. La mise en œuvre d'un nouveau système informatique début janvier a entraîné des bugs en cascade et freiner le travail des caisses. Est-ce que les indemnités pourront être versées à temps en février ? La réponse du chef de la direction du travail du SECO, Jérôme Cozendet.
C'est difficile à dire à ce jour parce que le système est encore dans une phase de tuning. Depuis plusieurs jours, on n'a pas eu d'incident majeur, donc ça me rend optimiste. Quand je visite les caisses, j'ai fait beaucoup de visites dans les cantons. Les gens me disent oui, on voit une amélioration, c'est plus rapide, c'est encore trop lent, c'est définitivement encore trop lent, mais c'est plus rapide. Donc oui, février devrait être mieux que le mois de janvier, mais la théorie et la pratique, c'est différent. Aujourd'hui, on prend ça au jour le jour. Mais je reste confiant. Chaque jour, le système sera plus performant. Chaque jour, on pourra amener des améliorations qui facilitera le traitement des données pour l'intérêt des chômeuses et des chômeurs, et puis aussi pour apporter un soulagement aussi au personnel qui est très très fortement demandé.
Des propos recueillis par notre correspondante parlementaire Marie Vuillemier. Le SECO soutient avoir préparé au mieux l'implantation de ce nouveau programme informatique, mais des dysfonctionnements imprévus se sont enchaînés et ont pesé sur l'ensemble du système. À l'étranger, trois mois après le dernier shutdown, les États-Unis se retrouveront ce soir à minuit de nouveau en situation de paralysie budgétaire. Passé leurs limites, plusieurs ministères verront leur financement à sec et devront mettre au chômage technique une partie de leurs fonctionnaires. Mais ce shutdown pourrait être de courte durée puisque le président américain Donald Trump a annoncé hier soir avoir trouvé un compromis avec les démocrates pour que ceux-ci adoptent 5 des 6 volets du texte budgétaire, tandis que la partie concernant le ministère de la Sécurité intérieure et donc l'ICE fera l'objet de nouvelles négociations au cours des deux prochaines semaines.
On passe au sport et en ski alpin. Cran Montana lance son week-end de Coupe du Monde aujourd'hui.
Première des trois épreuves au programme sur le haut plateau, la descente féminine sera lancée à 10h, à moins que la météo n'en décide autrement. Les dames enchaîneront avec un super G demain avant de laisser la place au circuit masculin pour une descente prévue dimanche sur la Nationale. Un week-end qui permettra à Mallory Blanc de vivre ses premières épreuves de Coupe du Monde à la maison. La Yentote évoque son objectif lors de ses courses sur le haut plateau.
Je pense que l'objectif de ce week-end, c'est vraiment de pouvoir retrouver mon ski dans des conditions comme ça, parce que c'est vrai qu'à Tarvisio, c'était pas facile. Je me sens mieux déjà ici, plus à l'aise, et puis de pouvoir construire de la confiance, mais je pense déjà aux courses de Cran Montana, et puis ensuite on verra pour les JO une fois qu'on sera là-bas. Je me projette pas plus que ça.
Une dernière question sur votre fans club qui sera en nombre, présent vendredi et samedi. Ça vous fait plaisir aussi de les voir ?
Évidemment, non, c'est chouette, et puis je sais qu'ils regardent souvent les courses où ils se rassemblent au village. J'entends, mais j'essaye de pas trop y réfléchir parce que oui, ça fait un peu de pression, mais je pense que c'est la pression, l'envie de bien faire en fait. Donc de les voir ici, ça va être assez émouvant et je me réjouis de pouvoir arriver dans la raquette et puis de célébrer avec eux.
Ces trois jours doivent servir de répétition générale, de dernier test grandeur nature avant les mondiaux de l'an prochain. Et c'était un sujet réalisé par nos confrères de Rhône FM.